franceinter.fr.
Bonjour,
bonjour,
Alain.
Bonjour, Alain,
bonjour à tous.
Il paraît que le jardin se modernise, il est devenu facile de se procurer des tondeuses ou des tronçonneuses électriques.
Le rêve, enfin, d'avoir des machines silencieuses qui ne polluent pas. Et pourtant, contrairement aux idées reçues, la tronçonneuse électrique est loin d'être une nouveauté. La première est mise au point en 1920 par un Américain, Charles Wolf. Elle est électrique. Le premier brevet pour une tronçonneuse électrique est déposé quelques années plus tard à Stuttgart en Allemagne, en 1926 par Andreas Stiel. Il est né à Zurich et il est le créateur de l'entreprise qui aujourd'hui encore porte son nom. Sa première machine à lui aussi est électrique et il faut être deux pour l'utiliser.
48 kilos, c'est ça?
Vous imaginez, il faut quand même, c'est quand même pas rien.
Non,
l'année
pas rien,
suivante, eh bien, notre homme présente sa nouvelle machine d'abattage d'arbres, c'est ainsi qu'il la nomme. Elle fonctionne à l'essence et là encore, il faut être costaud. 46 kilos.
Mais même à deux, hein, c'est quand même, ça reste très lourd.
Oui, mais il y a encore des vrais hommes.
Alors la
Non, je parlais pour moi.
La terrible efficacité de la... Bah, donc vous serez tout seul pour la porter votre tronçonneuse. La terrible efficacité de la tronçonneuse vient de la chaîne et de ses maillons.
Des maillons qui, avant 1947, étaient simplement surmontés de dents droites et coupantes. Rien à voir avec les chaînes d'aujourd'hui. Elles ont été inventées par Joe Cox, un Américain qui a longuement observé la larve d'un coléoptère xylophage. Voilà ce qui devrait plaire, je pense, à Alain Bougrain-Dubourg. Alors voilà ce que Joe Cox...
Enfin, il n'est pas là, il sera là demain.
Oui, mais ça n'empêche que s'il nous écoute, on le salue. Ça devrait tout...
Il vous écoute pas, il m'a dit, il déteste vous écouter. Il coupe quand c'est vous. Bon. Il reprend juste après pour Laurent Delmas.
Alors, toujours est-il que Joe Cox note la chose suivante. Je cite,
oui.
Cet insecte est pourvu de deux griffes ou couteaux dont il se sert alternativement. Pendant que l'un coupe, l'autre agit comme un guide de profondeur. C'est en observant ses griffes que j'ai pu déterminer la courbure du couteau en forme de gouge. Joe Cox va donc s'inspirer de ce modèle pour concevoir des maillons coupants, mais uniquement quand ils sont en action. Observez, vous pouvez toucher une lame de tronçonneuse, une chaîne, quand elle ne fonctionne pas.
Oui, quand elle ne fonctionne pas. Il y a quand même de sacrés accidents.
Oui, mais par contre, elle n'est coupante que quand elle est rotative. Alors, précision, et malheureusement, je n'ai pas trouvé dans les archives le nom du coléoptère.
Alors, c'est une machine qui provoque de gros dégâts.
Il y a un siècle, il fallait une semaine complète à deux hommes pour abattre et débiter un chêne centenaire. Un bûcheron fait aujourd'hui le même travail tout seul et en moins d'une journée. Le drame n'est pas d'avoir facilité l'exploitation des arbres, mais permis de couper avec excès et sans prétexte véritable. De tout temps, les hommes ont coupé les arbres et de tout temps, eh bien, d'autres l'ont déploré comme Ronsard. Ronsard, né en 1524, qui écrit
« Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras.
Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas.
Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force.
Des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce.
C'est magnifique.
Voilà, magnifique.
C'est un très
poème.
Très beau texte.
Et je voulais dédier cette chronique à Laurent Delmas qui, je crois, a besoin d'une tronçonneuse, mais en urgence.
Pourquoi c'est massacral? Ah oui, bah lui, non, c'est dégoûtant de lui dire ça.
Merci,
alors ça,
Patricia.
C'est pas gentil. Bon, Laurent, dites pourquoi?
Parce que ma voiture est sous un arbre depuis la tempête
voilà.
Dernière.
Voilà, il s'y trouve bien, il y reste.
Non, j'aimerais pas qu'il y reste. On va tronçonner.
Bon, voilà. Mais il y a un film Massacre à la tronçonneuse, non?
Mais oui, 1974. Qui a été interdit très très longtemps, oui. Tellement il est abominable. Il y a qu'un seul meurtre à la tronçonneuse d'ailleurs dans ce film. Il y a beaucoup d'autres meurtres, au croc de boucher notamment, mais il n'y a qu'un seul à la tronçonneuse.
C'est très mauvais comme film. C'est très mauvais.
C'est assez mauvais.
En tout cas, Pierre Veille, on ne va pas vous mettre de tronçonneuse entre les mains parce que déjà, un batteur à eux, déjà, c'est compliqué pour vous. Alors vous imaginez.
Ce serait très dangereux.
Très dangereux.
Pour vous et pour les autres.
Justine souhaiterait planter une dentelette du Cap. Elle habite près de Bordeaux. Est-ce possible?
Et la dentelle du Cap, c'est également appelée plein bagot. C'est une très jolie plante grimpante qui souvent fleurit bleu, mais pas seulement. Et il est vrai que cette plante est quelque peu frileuse. Mais en l'installant le long d'un mur qui va la nuit restituer la température, eh bien, elle devrait effectivement résister. Mais il est vrai que les plantes sont parfois étonnantes. Vous avez des régions où des arbres semblent ignorer le froid. Ils sont là, ils défient les hivers avec panache. Quand à quelques mètres seulement, eh bien la même variété a du mal à résister à des petites gelées. Il y a quand même le mystère naturel, mais c'est vrai, de la nature, la dentelière du Cap est une plante qui craint le froid, mais qui parfois, si elle est bien exposée, peut tenir.
Moi, j'en ai planté un plein magot dans mon jardin, il n'a pas tenu.
Oui,
non, mais c'est vrai.
À cause du gel ?
À cause de moi. L'oranger du Mexique craint-il le froid ?
C'est totalement différent.
L'oranger du Mexique craint-il le froid, vous demande Pauline.
J'adore cet arbuste, qui est un bel arbuste, le Choisyia ternata. Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, parce que souvent je dis, regardez le pays, et en fonction du pays, vous saurez les exigences du végétal. L'oranger du Mexique, on se dit avec un nom pareil, la plante doit geler. Eh bien non, l'oranger du Mexique, eh bien, résiste à des températures de moins 10, moins 15 degrés. Mais il ne prospère, il n'est beau que si les températures sont clémentes. Donc si vous habitez, par exemple, au nord de la Loire, si vous voulez vraiment des orangers du Mexique, plantez-les, mais là encore, près d'un mur, évitez les courants d'air, mais effectivement, il y a des chances de se développer, mais seulement si vraiment il y a du soleil, au moins pour la floraison.
Patrick voudrait savoir s'il peut épandre les cendres de sa cheminée sur sa pelouse.
Les cendres de la cheminée sont riches. Elles sont riches en calcium, en potasse, en silice, en magnésium, en phosphore. En un mot, elles sont extrêmement utiles pour le jardin. Le phosphore va, par exemple, favoriser la fructification de certaines plantes. Il faut quand même savoir qu'il faut en mettre beaucoup, beaucoup pour que cela devienne efficace.
Il ne faut pas en manger, hein.
Non, il ne faut pas en manger, bien sûr. Attention également, il faut savoir
que... Je dis ça pour Pierre Veil, parce qu'il est capable de se dire je vais manger les cendres de ma cheminée.
Non, peut-être pas non plus. Mais par contre, vous parlez de manger, donc moi je pense immédiatement à potager. Qui dit cendres, potager, idéal. On entoure les cultures des cendres et les gastéropodes ne franchissent pas les talus faits avec la cendre. Au lieu de mettre des produits polluants, entourez donc vos petites parcelles de salade ou de radis, d'un monticule de cendres, et vous verrez,
ça marche.
Cela est très très efficace.
Ah,
juste pour terminer sur la pelouse, attention, ce n'est pas parce que vous mettez des cendres sur une pelouse que la cendre va pénétrer seule le sol. L'arrosage devra contribuer à accélérer la dégradation de la cendre, parce qu'une cendre sur une pelouse, ça vous fait une pelouse pas très jolie non
oui,
plus.
Oui, évidemment. J'ai reçu un rosier miniature pour les fêtes, nous dit Caroline, puis-je le planter dans le jardin ?
Ah, j'adore les rosiers miniatures. Ils sont petits, ils ont des feuilles d'un
vert. Oui, ça, s'ils sont miniatures, ils sont petits, oui.
Oui, ils sont d'un vert. Oui, c'est ce qu'on appelle, je crois, un pléonasme, oui. Mais ça peut arriver.
Le pléonasme peut arriver, oui.
Oui, il peut arriver, tout à fait. Ah, il faut rire. Les rosiers donc, auxquels vous faites allusion...
On va encore se faire gronder, on va encore condensés. Dire que je vous ai maltraité.
À propos, justement, on m'a reproché, il n'y a pas très longtemps, de parler avec un peu de virulence de Roland Garros, et on a déploré l'absence de contradicteurs dans le studio. J'aurais aimé également qu'il y ait des contradicteurs à ce projet quand on en parle sur d'autres stations. Je trouve ça assez extraordinaire que des partisans d'un projet veulent toujours pouvoir exprimer seuls leur opposition, mais dès l'instant qu'on les critique immédiatement, donc bien entendu, je maintiens l'intégralité de mes propos.
Revenons-en au petit
rosier. Mais oui, le rosier miniature.
Le rosier, c'est une bombe de produits, il est engraissé à l'engrais.
Mais pas engraissé puisqu'il est petit.
Et justement, bien sûr que si, parce que observez le rosier, il est petit, mais les roses, elles, sont grosses, les boutons sont nombreux, c'est un condensé de chimie, il a été élevé au chaud, dès que vous le mettez dehors, allez, je lui donne 2 jours.
Ah bon ?
Ouais, 2 jours, et s'il ne gèle pas, s'il y a beaucoup de soleil, je lui donne 8 jours. Ce sont des rosiers qui n'ont pas du tout leur place dans les jardins. D'ailleurs, avez-vous...
Mais vous êtes contre d'une manière générale ?
Je ne suis pas contre, je dis simplement que ce sont des rosiers qui ont été faits, qui ont été conçus pour fleurir sur une table. Ils n'ont pas du tout été produits pour fleurir dans un jardin. D'ailleurs, autour de ce studio, et nous sommes nombreux, que ceux qui ont déjà vu des rosiers miniatures dans un jardin, lèvent la main.
Qui lève la main ? Non, même Isabelle, non, personne ne lève la main. Encore une question, combien de temps puis-je laisser mes plantes sous une couverture pour les abriter du froid ? C'est une question de Claude.
Le minimum, il faut mieux qu'une plante souffre d'absence de lumière pendant quelques jours, donc même une semaine, plutôt qu'elle demeure sous l'effet du froid. On annonce des basses températures. Oui, c'est l'occasion maintenant de stocker carton, couverture et de protéger les plantes frileuses. Il vaut mieux être dans l'obscurité 8 jours que de mourir du gel en quelques heures seulement.
Vous êtes venu avec un gros livre.
Eh oui, Le cours du paysage, il est signé Christophe Giraud, c'est publié chez Ulmer. Eh bien, c'est un ouvrage savant, c'est l'histoire d'un projet sur le monde naturel de la préhistoire à nos jours. En un mot, comment se fabriquent les paysages, qu'ils soient naturels ou voulus par l'homme. C'est un livre extrêmement bien documenté, extrêmement agréable à lire. Il s'adresse surtout à ceux qui feront du paysage un métier. C'est pas un livre qu'on va prendre plaisir à lire le soir tout seul près d'une cheminée, mais c'est drôlement bien documenté. C'est un bel ouvrage. Christophe Giraud, Le cours du paysage, Ulmer, 49,90 €.
Et c'est pédagogique.
Tout à fait.
Vous revenez demain ?
Bah oui, mais là j'attends parce qu'il y a Laurent Delmas et sa voiture.
Oui. À demain, mon cher Alain, 7h56.